Bien, Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Un moment assez privilégié, avec un temps agréable d'ailleurs, il faut le souligner, à côté d'une partie de vos ruches. Vous êtes apiculteur pour une base sur Saint-Jean-Royan, puis aussi on verra peut-être au-delà. Vous êtes apiculteur au sein de la ferme des Roussets. Maintenant, on peut préciser depuis combien de temps vous exercez cette profession ?
Alors, j'ai commencé l'année dernière en tant que, on va dire, semi-professionnel, parce que je suis cotisant solidaire. Je n'ai pas encore les 200 ruches minimum à avoir pour être reconnu comme professionnel de l'apiculture. Et sinon, en amateur, j'ai commencé il y a 4 ans à peu près.
Alors, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier pour vous lancer dans cette profession ?
Au début, il s'agissait de créer une activité collective avec des amis. On voulait créer notre emploi et on voulait s'affranchir du salariat et créer une activité collective où il n'y aurait pas d'hierarchie. Et du coup, on avait fait le choix il y a 3 ans d'acheter une ferme et de commencer à produire de façon à alimenter la population et du coup de participer à l'économie collective. Et du coup, j'ai choisi dans les métiers agricoles l'apiculture parce que à l'origine je connaissais pas, ça m'attirait, on en entend beaucoup parler, il y a un peu tout un mythe autour de l'abeille et voilà, j'ai eu cette idée là, j'ai essayé, j'ai fait des stages, etc. Et c'est un métier où en fait l'abeille elle est dangereuse parce qu'elle peut nous piquer et à la fois il se passe beaucoup de choses et il faut être très, très soigneux avec elle parce qu'elle est fragile quand même. Mmh. Et du coup c'est très stimulant de travailler avec.
C'est la connaissance aussi d'un monde un peu particulier, c'est un côté aussi un peu énigmatique.
Quand on ouvre une ruche, on a déjà une société parallèle qui vit à côté de nous, donc c'est déjà intéressant de voir qu'il y a des choses qui se passent à côté de nous et après c'est des énigmes parce qu'on parle pas du tout la même langue et on n'a pas du tout les mêmes comportements et du coup comme moi je suis très jeune apiculteur et que j'apprends encore énormément, à chaque fois je me pose la question qu'est-ce qui se passe dedans ou qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je comprends.
Vous avez commencé depuis 2 ans avec un certain nombre de lots de ruches et puis ensuite ça a grossi tout doucement.
La première année j'avais acheté une dizaine de ruches à peu près. J'ai acheté 6 ruches et tous les ans j'en ai racheté un petit peu et moi-même j'ai essayé de créer du cheptel, de refaire des essaims. Et l'année dernière j'ai emprunté de l'argent pour vraiment grossir, pour de pouvoir m'en tirer un revenu. Et du coup l'année dernière j'ai acheté 60 essaims. Et maintenant l'idée c'était de plus acheter d'essaims et de moi-même produire des essaims. Donc cette année j'en ai reproduit encore pas mal. Mais mon cheptel n'a pas augmenté parce que j'ai perdu aussi beaucoup de ruches pendant la saison dernière et pendant l'hiver dernier. Du coup, je suis très content parce que je vais hiverner autant de ruches que l'année dernière. Ouais. Donc, j'ai pas diminué mon cheptel. Mais c'était limite. J'avais peur que mon cheptel diminue.
Vous avez eu l'occasion d'échanger justement par rapport à la manière de devenir apiculteur, aussi s'adapter au territoire avec d'autres professionnels qui exercent depuis bon nombre d'années.
Avant de m'installer, en fait, j'ai fait le tour de beaucoup d'apiculteurs de la région et je voulais qu'ils me témoignent. Avant de commencer à apprendre la technique, j'ai voulu qu'ils me témoignent de leur métier. Mmh. Et du coup, j'ai eu des entrevues vraiment passionnantes avec des gens qui avaient déjà eu pas mal d'années de carrière, voire qui avaient fini leur carrière. Et ils m'ont témoigné d'un métier passionnant. Et voilà, avec ses difficultés et puis ses réussites.
L'essence principale pour les abeilles?
Alors, dans le Royan même, il y a 2 miellets qui fonctionnent bien, même peut-être 3. Il y a le miel de printemps déjà. Après, il y a le miel d'acacia. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'acacia dans le Royan. Donc si la météo est présente, on va faire du miel d'acacia. Et après, il y a tilleul ronce. Donc c'est un peu en même temps. Et il y a en fait le Royan, traditionnellement, et on produisait du tilleul qu'on vendait à une foire du tilleul. Et du coup, beaucoup de gens ont des tilleuls dans leur jardin, sur les bords de forêt, sur les bords de route. Et du coup, on produit pas mal de miel de tilleul. Et après, dans tout Rhône-Alpes, la majorité des apiculteurs sont transhumants. Donc ça veut dire qu'on a des véhicules et on transporte nos ruches pour pouvoir suivre les floraisons. C'est une région qui s'adapte bien parce qu'il y a beaucoup de floraisons et on peut être relocalisé comme ça. Voilà. Et donc on peut sortir du territoire facilement sans faire beaucoup d'heures de route pour faire du miel de lavande ou du miel de châtaignier. Et dans le Royan, avant, ce que me racontent des collègues, c'est qu'on faisait du miel de châtaignier, mais aujourd'hui, il ne faut plus y compter.
Est-ce qu'il y a, il y a moins de châtaigniers
ou... Alors, je pense qu'il y a moins de châtaigniers. Il y a aussi eu un... Alors, dû à peut-être des pratiques de foresterie, je ne sais pas exactement. Mais du coup, ouais, il y a moins de châtaigniers, et aussi parce qu'il y a des maladies sur le châtaignier qui se développent beaucoup. Et donc ça a réduit aussi la quantité de châtaigniers. Et après, est-ce qu'il y a une question de météo ou de terroir? Moi, c'est ma grande énigme, mais je n'ai pas de réponse là-dessus.
Le miel de sapin, ça existe aussi?
Alors, le miel de sapin, c'est pas un miel de fleurs, c'est un miel de miella. Donc c'est le puceron du sapin qui crée le... Qui sécrète, donc ses excréments sont sucrés et l'abeille en fait du miel. C'est un miel qui est très recherché. On n'en a pas trop sur le Vercors. Alors je pense qu'il peut avoir des miellets des fois, mais du coup ce sera du... Ouais, on peut avoir des miellets sur le Vercors, mais là, si, les vrais miellets de sapin, ça se passe en Ardèche, au col de la République, il me semble. Voilà, là c'est l'endroit où beaucoup de gens de Rhône-Alpes vont faire du miel de sapin. Par contre, c'est un miel rare, donc ça marche une fois tous les 4-5 ans. C'est un peu des chercheurs d'or qui vont faire du miel de sapin.
Alors, un certain nombre de ruches ici, vous en avez d'autres dans d'autres secteurs?
Alors du coup, avant d'habiter ici, j'habitais à côté de Romans. Donc j'avais commencé l'apiculture là-bas, donc j'ai pas mal de ruchers aussi autour de Romans, le long de l'Isère. Et après, j'essaye d'aller aussi dans le coin de Haute-Rive. Donc cette année, j'y vais pas parce que j'ai pas assez de ruches et ça sert à rien de faire des kilomètres si je peux faire ici, quoi. Mais c'est intéressant d'être dans des secteurs différents quand la météo est différente, parce qu'on sait jamais ce qu'il va faire. Donc si on est dans des zones différentes, et ben un endroit il peut ne pas mieler et un autre il peut mieler. Et c'est aussi intéressant parce que les floraisons sont décalées. Et du coup, soit pour aller faire une deuxième floraison juste après, soit pour ne pas avoir le même jour toutes les récoltes à faire, parce que si on a beaucoup de ruches, on ne peut pas.
Ouais, ça vous permet d'échelonner en fait les récoltes?
Exactement, ouais. Ouais.
C'est aussi, comme on dit, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça permet, selon un peu les climats, les conditions périphériques, de pouvoir préserver peut-être certains lots de ruches.
Oui, alors dans ce qui nous pousse à avoir plusieurs ruchers, en effet, il y a les différentes floraisons, la météo, et il y a aussi les risques d'intoxication. Donc ça, c'est quand des agriculteurs vont mettre certains insecticides ou fongicides dans leurs champs, ben, il y a des fois les ruches qui prennent un coup, soit qu'il y a la totalité des abeilles qui meurent, soit toutes les abeilles butineuses, donc c'est celles qui ramènent le miel. Elles sont les plus âgées et elles sont en dehors de la ruche et en fait elles ne retrouvent pas leur ruche parce que c'est l'insecticide qui touche sur l'orientation de l'abeille. Pour limiter les risques, on n'a pas le choix que d'avoir des ruchers dans différentes zones. On ne mettra jamais toutes nos ruches au même endroit parce que si on a peu de ruches, on fera des petits ruchers, plein de petits ruchers. Si on a beaucoup de ruches, on fera peut-être autant de ruchers mais plus grands. Mais il ne faut jamais mettre ces ruches ensemble.
avant. Je ne sais pas si ça se pratiquait de la même manière. Entre notamment votre formation professionnelle et les témoignages que vous avez pu avoir, pratiquer maintenant l'apiculture il y a une trentaine d'années en arrière, c'est à peu près la même chose, ou ça a changé, on peut dire, les conditions de fonctionnement?
Et ben alors, pour l'histoire, il y a eu l'apiculture avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était une apiculture à petite échelle, et où on transhumait pas les ruches parce qu'on n'avait pas les moyens techniques. Et puis petit à petit s'est créée l'apiculture moderne, et donc on a créé l'apiculture qu'on connaît aujourd'hui, où voilà, le schéma c'est un peu d'avoir, en tout cas en Rhône-Alpes, d'avoir un véhicule et de suivre les floraisons. Et les apiculteurs que moi j'ai rencontrés, qui sont aujourd'hui à la retraite, est-ce que le souvenir est déformé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils racontent qu'ils faisaient des quantités incroyables de miel, et que les ruches débordaient d'abeilles, qu'on mettait 3 hausses sur une mielée. Ils ont les yeux qui brillent quand ils nous racontent ça. Et j'arrive pas à comprendre, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà, depuis 4-5 ans... Du coup, depuis que j'ai commencé, en fait, la production du miel en France a énormément diminué. En fait, ça correspondrait à justement l'arrivée d'un nouvel insecticide sur le marché qui s'appelle les néonicotinoïdes, quelque chose comme ça, qui désoriente l'abeille. En tout cas, depuis cette mise en vente sur le marché, les productions de miel en France a diminué.
La mise sur le marché, ça remonte à un certain temps, ou c'est assez récent?
Ça fait 5 ans qu'on a le droit de mettre ça dans ses champs, et voilà. Et après, sur la façon de pratiquer, on recopie un peu le modèle quand même des gens. Les gens qui pratiquaient il y a 30 ans, on a un peu le même modèle. Mais comme c'est devenu beaucoup plus difficile, pour diverses raisons, ça a poussé le métier à devenir plus technique. Et moi, j'essaye de rejoindre ça, mais c'est pas évident. Mais du coup, on doit maîtriser énormément la génétique de l'abeille, le développement des colonies. Voilà, c'est devenu beaucoup plus technique.
Ouais. Tous ces phénomènes qui deviennent exponentiels, avant, n'existaient pas. Donc, c'était beaucoup plus aisé de pouvoir pratiquer.
Avant, on dit qu'on récoltait le miel, quoi. Ouais. Maintenant, on est éleveur, en fait. Ouais. Quand on apprend l'apiculture, ma génération, les profs, les premiers jours où ils nous font un cours d'apiculture, ils nous disent, voilà, votre métier, c'est éleveur d'abeilles. Parce que si on ne sait pas élever des abeilles, si on ne sait pas élever des rennes, si on ne sait pas produire des essaims, ce sera très dur d'avoir une exploitation rentable. Il faut être prêt, pendant un hiver, de perdre la moitié de ses ruches, ou il faut être prêt, pendant une saison, à avoir un rucher complet qui périclite. Donc faut savoir faire des essais.
Voilà. Ah ouais, c'est devenu très très technologique, et puis aussi il y a peut-être une présence plus accrue pour préserver un petit peu tout le système.
Ouais, il y a beaucoup plus de tâches aussi à accomplir sur les ruches. Oui, les techniques pour produire des essaims, aujourd'hui, il faut être plus fin pour avoir des ruches plus efficaces, et ça oblige d'être plus présent sur les ruches. Et il y a aussi l'accentuation des... Et ça, c'est un peu dans l'agriculture en général. Alors, pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas, mais il y a une accentuation des maladies, des parasites... Et du coup, c'est à chaque fois des nouvelles choses à faire sur la ruche. Mais témoigneront la même chose les arboriculteurs. C'est intéressant, c'est que l'agriculture d'aujourd'hui, on voit arriver une nouvelle mouche qui va détruire les fruits. Et du coup, nous, sur l'abeille, depuis l'été dernier, arrive d'Italie un coléoptère qui fait fermenter le miel. Pour l'instant, il n'est pas encore en France, mais on sait qu'il remonte petit à petit l'Italie. Voilà, c'était la bonne nouvelle de l'été dernier.
Parce qu'on entend déjà parler d'un certain varroa. Ça, c'est aussi déjà un premier ennemi présent pour les abeilles.
Alors, le varroa, c'est arrivé, je crois, il y a peut-être 20 ans. Je ne sais pas bien, du coup, vu que j'ai commencé qu'il y a 3-4 ans, mais... Moi, j'ai toujours connu le varroa, et j'ai appris avec le varroa, donc ça me paraît normal.
Ah oui.
Mais comme me racontent mes collègues qui ont connu l'arrivée du varroa, Et ben eux, ils ont dû s'adapter, et l'année où le varroa est arrivé sur leur ruchet, ils ont perdu les trois quarts de leur ruche, parce qu'on ne savait pas faire, parce qu'il n'y avait pas de solution simple. Malgré que je crois que, que j'ai toujours connu le varroa et qu'on sait à peu près le gérer, ben, l'hiver dernier, je n'ai pas su le gérer. C'était la première fois que j'avais autant de ruches à gérer. Et je pense que la quantité des ruches accentue le phénomène. Et du coup, là, au printemps, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de varroa que j'avais jamais eu. Et donc, bah voilà, pareil, il faut trouver une solution, c'est très stressant.
Voilà. Après, il peut y avoir aussi des fois des conditions météo qui favorisent le maintien de ce type d'insectes plus longtemps dans la saison.
Ouais, en fait, le varroa, il se développe avec les œufs que vont produire la reine. Et donc là, nous, on a un produit qui est assez efficace, qui détruit le varroa. Mais il faut qu'il n'y ait pas d'œuf dans la ruche pour qu'il ne soit pas protégé par l'œuf. Et du coup, quand on passe le traitement, s'il reste du couvain, s'il reste des œufs, il va en rester et du coup, il n'y en aura plus à la sortie du printemps. Et du coup, moi, c'est sans doute ce qui s'est passé.
Donc déjà, quand on apprend l'apiculture, ça fait partie bien du cursus finalement. Ce varroa, c'est quelque chose qui reste prégnant tout au long du métier d'apiculteur. Et maintenant, cet insecte qui remonte aussi, il va falloir appréhender d'une autre manière. Et puis tout ce qu'on évoquait autour des pesticides ou fongicides, ça c'est vraiment au cas par cas, on peut dire, autour des ruches que vous implantez. En fait, ça demande une observation et puis de gérer en fonction de l'activité des différentes cultures.
Quand on choisit un rucher, en effet, on regarde quelles fleurs il y a, quelles fleurs cultivées, quelles fleurs sauvages. On va regarder la géographie. Et en effet, du coup, on regarde qui cultive autour et comment ils cultivent, parce que ça va avoir un impact sur nos abeilles. On élève l'abeille, mais on la conditionne pas dans un espace, en fait. Elle va partout, donc elle va subir l'environnement qu'on lui offre, quoi.
C'est pas juste une proximité autour de la ruche, c'est beaucoup plus large.
Ouais, du coup, l'abeille, elle peut aller jusqu'à 3 km à la ronde, donc c'est, voilà, c'est large. Aujourd'hui, c'est plutôt au niveau des institutions et l'administration où on cherche à travailler avec les autres professions pour trouver des solutions qui gêneraient pas l'apiculture et l'abeille. Et les autres professions sont aussi intéressées par l'abeille parce que l'abeille apporte beaucoup à l'environnement et aussi en fait à la pollinisation de leur culture. Donc, en arboriculture, par exemple, très souvent, on paye un apiculteur pour qu'il puisse mettre des ruches dans ses arbres fruitiers. Donc aussi, ils comprennent l'importance de l'abeille et donc ils ne voudraient pas les intoxiquer. Donc il y a des choses qui se sont amorcées. Après, je pense que ce n'est pas évident parce qu'en fait, on a peu d'autres solutions, ou on a peur d'utiliser d'autres solutions parce que ça remet en question certaines idées sur la productivité. Ou...
Est-ce que c'est facile finalement de savoir parfois qu'est-ce qui est responsable d'un fléau pour les abeilles? Comme il y a plusieurs ennemis, on peut dire il y a quand même plusieurs facettes assez nocives, c'est parfois... Enfin, est-ce que c'est toujours facile de...
Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu d'analyses, peu d'études qui ont révélé que tel produit ou telle molécule active est responsable exactement de ça. Par exemple, si l'abeille ne rentre pas à la ruche une fois qu'elle est intoxiquée, puisque c'est l'objectif de l'insecticide, on ne pourra jamais prouver que c'est ce produit-là. Et du coup, sous ce couvert-là, ça arrange aussi beaucoup de gens de dire bah non, on n'a pas prouvé, c'est sans doute pas ça. Faut... Et puis, si les recherches voilà, elles sont mal orientées ou influencer, voilà, aujourd'hui c'est pas toujours prouvé. Par contre, sur un terme scientifique, en fait c'est assez simple et c'est facile, enfin on comprend assez facilement les conséquences de ce qui se passe dans l'environnement parce qu'il y a des liens très directs qu'on voudrait pas voir ou qu'on veut pas montrer, mais si on réduit la biodiversité, si on retrouve des fongicides dans les pollens, c'est un peu dur d'imaginer que c'est pas ça, en fait.
Il y a un certain nombre de corrélations, j'imagine, qui un peu émergent et qui rendent certaines évidences aussi, notamment pour les apiculteurs, entre les différentes zones. Vous arrivez à recouper des informations qui donnent des éléments un peu précis, hein.
Par exemple, là, dans la plaine de la Croix, c'est à côté de Salon de Provence, il y a et en fait, mais je parle de là-bas, mais en fait, on aurait pu parler du Royan. Mais bon, je vais parler quand même de là-bas. Il y a beaucoup d'apiculteurs professionnels qui hivernent là-bas. Et en fait, c'est très, très localisé. Il y a le long d'une nationale, dans une... C'est pas une vallée, du coup, mais ouais, le long d'une nationale, il y avait je sais pas, une vingtaine de ruchers. Et tous ces ruchers-là sont touchés par une énorme mortalité pendant l'hiver. Cet hiver, il y a eu sur chaque rucher entre 80 et 90% de pertes sur tous les ruchers. Et c'est plein d'apiculteurs différents, et ces apiculteurs ont des ruchers ailleurs qui, eux, n'ont pas eu de problème. Donc là, on a la démonstration qu'il s'est passé quelque chose, quelque chose qui est de l'activité humaine, en tout cas, qui a eu des conséquences sur les ruches, quoi. Et en fait, cet hiver, il s'est passé la même chose dans le Royan, mais ça a fait moins de bruit dans le milieu apicole parce que c'était moins de professionnels. Il y avait peut-être moins d'enjeux financiers parce que les apiculteurs de la plaine de la Croix, c'est des gens qui font des grandes quantités de miel. C'est pour ça que c'est le premier exemple qui m'est venu. Mais du coup, dans le Royan, il y a, moi, de ce que je connais, 4, 5, 6 apiculteurs qui ont perdu des quantités impressionnantes d'abeilles. Et on ne trouve pas de réponse à ça aujourd'hui. C'est très surprenant. Parce que ça peut paraître quand même très préservé, le Royan. Même s'il y a certaines agricultures qui sont très poussées ou qui utilisent aussi des insecticides. Si on a évité certaines périodes, c'est assez surprenant. Et là, ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et il faut qu'on trouve des solutions.
Par exemple, sur la Drôme des Collines, vous avez vu des similitudes par rapport à ici, ou...
Alors du coup, j'ai pas parlé avec des collègues qui hivernent dans la Drôme des Collines, donc il n'y a que moi que j'ai comme expérience. Moi, j'ai pas eu autant de pertes qu'ici. J'ai eu quand même beaucoup de pertes. Moi, j'étais plus à 40% sur l'ensemble de mon cheptel. Mais j'ai perdu pas mal de colonies qui s'étaient fait intoxiquer l'année dernière pendant la saison, que j'avais, voilà, j'étais plein de motivation, je les avais entretenues pendant tout l'été en me disant que ça allait repartir, puis elles repartaient pas, et donc pendant l'hiver elles sont parties. J'ai eu moins de pertes, et du coup cet hiver, bah, je me dis, je mets où mes ruches? Je les mets à côté de chez moi dans le Royan, mais il y a eu énormément de pertes, ou je les mets un peu plus loin, mais je sais que ça se passe plutôt bien. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller j'ai prévu de les mettre en Drôme des Collines. J'attendrai encore un hiver de savoir comment ça s'est passé pour les autres avant d'hiverner ici.
Le type d'agriculture dans la Drôme des Collines et ici n'est pas le même. On ne retrouve pas tout à fait les mêmes cultures.
Alors, dans la Drôme des Collines, déjà, il y a moins de noyers. Où j'hiverne, il n'y en a même pas du tout. Après, il y a aussi moins de zones sauvages qu'ici, quand même. Donc, c'est ça qui est un peu surprenant, quoi.
Donc, moins de culture, c'est ça, hein? Moins de zones sauvages, donc peut-être plus de...
Du coup, dans le Royan, il y a moins de culture, à mon avis. Puisqu'il y a les contreforts du Vercors, enfin, ouais, tout ce qui monte vers le Vercors, là, c'est que de la forêt, c'est plus cultivé, quoi. En Drôme des Collines, après on a beaucoup de chênes truffiers qu'on n'a pas trop ici. Plus d'arbres fruitiers aussi, ouais.
Actuellement, là on est quasiment début juin, vous avez rapatrié l'ensemble de vos ruches sur le secteur, enfin une bonne partie pour l'été.
Voilà, là il y a la floraison de tilleul qui s'annonce. Et du coup j'ai décidé de ramener mes ruches ici parce que justement en Drôme des Collines, il y a quasiment pas de tilleul. Je les ramène ici jusqu'au début du châtaignier. Voilà, elles devraient produire dans le Royan. Et puis elles repartiront dans les champs barrants pour faire du miel de châtaignier.
Voilà. Là-bas, c'est beaucoup plus effectivement propice au châtaignier, ouais, sur ce secteur.
C'est plus propice pour l'instant, mais c'est vrai que d'année en année, on voit aussi là-bas le. Ben, il y a une mouche là-bas, enfin je crois que c'est une guêpe qui pond dans les châtaigniers et qui les détruit, quoi, qui les tue. Et du coup là, il commence à naître en Rhône-Alpes une initiative pour essayer de. On a un insecte qui détruirait le parasite du châtaignier. Donc l'idée c'est de développer le parasite du châtaignier. Voilà, donc on a commencé ça et on espère que ce soit... Enfin, on va commencer ça et on va essayer de s'y prendre un peu plus tôt qu'en Ardèche où déjà, là, il y a eu des dégâts. Voilà.
Ah, ça demande des parades incroyables pour l'abeille aussi. Peut-être qu'il faudra trouver un ennemi du varroa et d'autres insectes nuisibles.
Ben alors là, ça c'est
un peu les recherches, non?
Ouais, c'est le rêve de pas mal d'apiculteurs, c'est de trouver une abeille qui sait se débarrasser du varroa toute seule. Alors ce serait beau parce que du coup, on mettrait plus de produits dans nos ruches, ce serait quand même... L'abeille pourrait se dépouiller elle-même de son parasite. Après, j'essaye d'apprendre des techniques mécaniques que, de par mon intervention, pour réduire le varroa. Et...
Ça, déjà mécaniquement, c'est possible de s'en débarrasser
de réduire
en enlevant les...
Comme le varroa aime bien, il va dans le couvain. Le couvain, c'est où la reine pond. Si on enlève du couvain à la ruche, on enlève du varroa. Et donc l'idée, c'est de réduire la pression du varroa, de réduire la quantité de varroa dans la ruche et pas la supprimer totalement.
Vous êtes soutenu par aussi... un syndicat ou...
L'apiculture fonctionne beaucoup autour de syndicats. Moi, je suis adhérent au SAPRA, et c'est un syndicat qui est très très actif en Rhône-Alpes, avec des solutions très 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 intéressantes. Voilà, ils proposent des solutions pour avancer dans notre profession, et notamment pour les gens qui s'installent. Ils ont imaginé de nous louer des essaims pendant 2 ans, et au bout de 2 ans on doit rendre l'essaim, et avec ces essaims on peut multiplier du cheptel. Aujourd'hui, comme c'est dur d'avoir du cheptel, comme les essaims sont de plus en plus chers parce que tout le monde perd ses ruches, et ben voilà, c'est une solution qui pour nous débutants est très intéressante.
Il y a un commerce d'essaims.
Ah ouais, les essaims, ils sont peut-être 2 fois plus chers qu'il y a 10 ans. Bah, et même il y a 10 ans, ils doivent être 5 fois moins chers, je sais pas. Et en fait, du coup, il y a des gens qui... Moi, je suis spécialisé dans la production du miel. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la production d'essaims.
Voilà. Ah oui, c'est deux mondes, deux facettes finalement de l'apiculture. On peut considérer celui qui fabrique des essaims comme un apiculteur ou non, c'est...
Oui, celui qui fait des essaims, c'est un apiculteur. C'est même souvent un très bon apiculteur parce qu'il doit gérer, il doit avoir des colonies qui sont bonnes. Moi, je n'aurais pas la capacité technique de vendre de la qualité. Du coup, je ne vends pas d'essaims. Après, donc, un apiculteur, il peut faire plusieurs choses. Il peut vendre des essaims et faire du miel. Après, on produit aussi de la propolis, du pollen et de la gelée royale. Donc, voilà, et les... les plus grands corps de métier en apiculture, c'est des gens qui sont spécialisés en gelée royale, en essaim ou en abeille. Et en miel, pardon. Et après, il y a des gens qui font les trois. Il faut attention à ne pas trop se disperser. Parce que...
bon, bah merci beaucoup et puis bonne continuation.